Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à tous et bienvenue sur notre série d'émissions sur les nouvelles solutions financières pour les territoires. Nous sommes arrivés à la cinquième émission qui traitera des vertus des entreprises locales qui seront présentées par Raphaël Souchier dans quelques instants. Comme vous le savez, nous sommes un groupe d'une bonne dizaine de grandes organisations, des centres de réflexion, des dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat, au développement local ou au financement. Et nous mettons en valeur toute une série de solutions qui permettent de valoriser les ressources locales à partir de la solution financière et de la solution échange afin de favoriser le développement et le traitement des grands enjeux économiques, sociaux, environnementaux, etc. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui des entreprises locales et Raphaël Souchier, qui a beaucoup étudié cette question, qui a publié sur le sujet, qui a exploré des situations dans d'autres pays, va nous présenter cette logique d'entreprise locale. Parce que jusqu'à maintenant, finalement, on a développé une intuition. Il est bon d'utiliser les ressources locales localement et on va aujourd'hui essayer de vérifier que cette intuition est juste en nous rapprochant d'études qui démontrent effectivement que les entreprises locales qui vont être définies sont effectivement plus vertueuses et plus intéressantes pour le développement local. Donc, si vous voulez vous présenter brièvement et puis développer cet intérêt que représentent les entreprises locales, à vous.
Merci et bonjour à tous. Donc Raphaël Souchier, je travaille depuis plus de 30 ans à monter des coopérations entre des régions et des villes européennes dans le domaine de l'économie locale durable. Je suis aussi titulaire d'une chaire à l'Université Bretagne Sud sur le thème de connaissance et action territoriale. Puis j'ai aussi une coopération étroite avec un cabinet tout à fait passionnant qui s'appelle Utopie et qui travaille également sur ces questions de développement durable des entreprises et d'économie locale.
Et vous avez publié un ouvrage sur ces sujets.
Oui, j'ai aussi publié un ouvrage qui s'appelle « Made in Local » de chez Erol. Et c'est vrai que ça fait quelques années que ça tourne, que ce livre tourne. Et j'ai régulièrement des entrepreneurs qui m'appellent en me disant, ça me fait toujours sourire, c'est mon livre de chevet. Je leur dis en général, vous n'avez pas autre chose comme livre de chevet. Ils disent non, parce que c'est très pédagogique et ça montre bien pourquoi nous faisons ce que nous faisons, où ça nous aide à structurer notre démarche de développement économique local en tant qu'entreprise, en tant que territoire, etc. Donc c'est tout à fait agréable d'avoir ce retour. Et on voit aujourd'hui, dans la situation avec le Covid notamment, que tout d'un coup, un certain nombre de responsables, de dirigeants, ou prennent conscience ou parlent plus de l'économie locale et des risques qu'on court. L'élément important, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que les entreprises locales sont importantes et quel est l'impact de ces entreprises. Alors, moi, je vois trois clés de compréhension. La première, c'est la propriété. Dans notre société, celui qui détient le capital de l'entreprise, il en fait ce qu'il veut. Qu'il soit local ou qu'il soit un groupe international ou que ce soit simplement la bourse à New York, à Londres, à Paris ou ailleurs, c'est celui qui est le propriétaire qui décide. Et tous les autres peuvent pleurer s'il y a une décision de changement. Donc, un élément central, si on veut renforcer les économies locales, c'est qu'il y ait une plus grande partie des entreprises de nos territoires qui soient la propriété soit de leurs entrepreneurs, soit de leurs entrepreneurs si c'est une coopérative, par exemple, soit d'investisseurs locaux.
Vous considérez que le fait que la propriété soit locale présente une garantie d'enracinement?
Oui, c'est une garantie d'abord parce que les entreprises locales en France sont plus petites en général Et donc, la personne qui habite localement, il n'a pas forcément les réflexes des groupes internationaux. Et donc, il y a une tendance, on le voit très, très clairement, à ce que les entreprises locales restent plus locales. Et puis, une entreprise locale, on va le voir ensuite, elle a un impact et elle est liée au territoire par ses fournisseurs, ses clients, mais aussi l'environnement dans lequel elle vit, l'environnement humain aussi. Et on constate que quand le propriétaire est local, la société reste beaucoup plus localement. Oui.
D'accord.
Alors, je disais donc, cette propriété locale, c'est vraiment une clé. Hein. Et on voit que les Français sont parmi les plus grands épargnants dans le monde, par tête. Et donc, ça veut dire qu'il y a énormément d'argent, même si on met un petit peu d'argent à la banque, cet argent, il s'en va. Je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui parce qu'on a d'autres émissions qui parlent de l'investissement local. Mais c'est important de savoir que nous avons tous sur nos comptes épargne de l'argent qui circule et qui va nourrir une économie qui généralement n'est pas locale parce que il n'y a pas une offre financière, une offre bancaire suffisamment importante, elle est extrêmement marginale, qui permettrait à des Bretons de voir leur argent investi en Bretagne, à des Parisiens à Paris, à des Bourguignons en Bourgogne, etc. Or, cette relation entre les acteurs est importante, je vais le souligner.
Voilà, donc il y a des entreprises qu'on considère comme locales, parce qu'elles sont implantées sur un territoire, mais parmi ces entreprises, il y a plusieurs catégories, et fait que ces entreprises soient ou non la propriété des locaux joue un rôle important dans leur possibilité de s'en aller du territoire ou de rester sur le territoire.
Absolument. Si vous prenez un groupe comme Mittal, par exemple, qui a racheté Sacylor, qui avait racheté Usinor, moi, quand j'étais jeune, j'étais consultant auprès d'Usinor, ça fait très longtemps. Si M. Mittal décide que en Europe, il a trop d'entreprises qui produisent de l'acier, vu l'état du marché, etc., le sort des territoires sur lesquels sont implantées ces entreprises, même si pour le territoire c'est une énorme entreprise localement, lui, c'est pas son problème. Son problème, c'est son cours de bourse et c'est l'équilibre de sa société au niveau mondial. Si vous avez une entreprise américaine qui a une filiale en France, vous pouvez dire ce que vous voulez et le gouvernement peut faire ce qu'il veut ou dire ce qu'il veut. Ça ne change absolument rien. General Electric n'a rien à faire. Il va supprimer ses 850 postes probablement et emmener son activité en Turquie et en Asie. Les gouvernements français et les contribuables, etc., n'ont aucun impact là-dessus. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire.
Ça, Raphaël, on le comprend bien. Ce que vous dites et ce que vous apportez peut-être de nouveau sur ce point est tout à fait important. C'est le fait de vérifier, de démontrer par des études, et je crois que là, vous avez les travaux de Michael Schumann que vous avez beaucoup mobilisé.
Absolument.
Vous avez pu vérifier par des études qu'effectivement, cet élément de propriété était dans les faits quelque chose d'extrêmement décisif pour l'enracinement d'une entreprise.
Absolument. C'est le point fondamental. Très clairement, toutes les études le montrent. On a étudié pendant des années aux États-Unis et cet impact, c'est vrai en France aussi. Une autre clé de compréhension, c'est l'impact local de l'achat local. Alors, les gens disent, oui, mais est-ce que c'est un vrai impact? Il y a un impact économique, mais il y a aussi un impact social et environnemental. On parle de l'effet multiplicateur. L'effet multiplicateur, alors ça fait des décennies qu'on travaille là-dessus. En gros, l'argent qui est dépensé dans une entreprise ou un commerce local par une personne qui habite sur le territoire, il génère trois fois plus d'activités économiques, d'emplois, d'impact socioculturel, etc., que si c'est une entreprise nationale dont le siège n'est pas dans la région, parce qu'une entreprise locale, c'est une entreprise dont le siège, donc les décideurs, sont dans la région. Si c'est une entreprise nationale, c'est moindre. Et si c'est une entreprise internationale et en plus une entreprise sur Internet, alors là, l'impact sur l'économie locale, vous voyez par exemple Amazon et compagnie, ben, l'impact, il est pas nul, mais il est extrêmement faible. Donc ça c'est important, cet effet multiplicateur permet d'expliquer, de comprendre que quand vous dépensez de l'argent chez un commerçant, chez un entrepreneur, un artisan, un expert comptable, etc., qui sont sur votre territoire, ces gens-là, en fait, comme ce sont des entreprises généralement de taille petite ou moyenne, ils vont acheter localement également. Leurs fournisseurs seront souvent des fournisseurs locaux, alors que si votre fournisseur est un fournisseur national ou international, il va pas venir employer des fournisseurs chez vous. Hein, c'est clair qu'il va essayer de créer un effet de masse et de faire travailler des entreprises un peu partout dans le monde, et en tout cas pas là où vous êtes installé vous. Alors ça, c'est un élément important. Alors on peut se poser la question, comment on fait pour renforcer cet effet multiplicateur? Eh bien, il y a plusieurs axes de travail. Le premier, c'est faire que les entreprises développent la qualité de leur offre. Parce que, évidemment, si votre offre n'est pas de qualité et que vous êtes une entreprise locale, ben, on ne va pas forcément acheter chez vous. Ensuite, il y a la coopération, je vais en parler après, et le renforcement de la responsabilité du professionnalisme des entrepreneurs locaux. Alors, il y a un autre élément qui est de mobiliser les acheteurs locaux, que ce soit des ménages, des entreprises, des collectivités, et en particulier la commande publique. Souvent, on nous dit, mais on n'a pas le droit d'acheter local, les règlements européens, la loi française n'autorise pas. Théoriquement, c'est vrai. Mais je vous renvoie, je ne vais pas développer parce que c'est très intéressant mais un peu long, une enquête qui a été faite par une association qui s'appelle la FIMIF, qui est la Fédération indépendante du Made in France, qui a interrogé un très grand nombre de collectivités sur comment faites-vous si vous achetez local, comment vous le faites pour le faire. Il y a toute une série de pratiques qui font que la commande publique peut-être peut favoriser aussi les entreprises du territoire. Donc là, je vous renvoie ça et peut-être que sur l'émission, il y aura des liens. Donc c'est une enquête de la FIMIF et c'est vraiment très intéressant. Donc il y a une croyance qui est qu'on ne peut pas acheter local quand on est une collectivité. C'est pas vrai. Et d'autre part, les collectivités dans un certain nombre de territoires, et en particulier les territoires ruraux, ce sont les principales ou d'importantes entreprises ou sources de commandes sur un territoire.
Alors il y a ce point d'ailleurs... Il y a une organisation qui s'appelle l'OBSAR qui conseille aussi les acheteurs publics mais aussi privés par rapport à ce moyen de faciliter le développement de l'écosystème autour des implantations. Et on mettra aussi cette référence dans le...
Voilà, alors ça c'est très important parce que c'est vraiment une croyance qui empêche des milliards d'euros de circuler à l'intérieur des régions ou sur les territoires plus petits. Or, il n'y a pas de raison objective à ça, il y a juste des habitudes. Et puis, souvent, un manque de formation ou de connaissances de la part des élus et des techniciens. Mais les gens qui s'intéressent à ça et qui sont des acheteurs publics ou des élus concernés par ça en France, il y a des solutions extraordinaires. Il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus, mais ce n'est pas la majorité. Donc ça, c'est vraiment maximiser l'effet multiplicateur, c'est développer toutes les occasions d'achat local. Alors, la troisième clé de compréhension, c'est plutôt un objectif. C'est quel peut être l'objectif? C'est ce qu'on appelle la substitution à l'import. Et les analyses qu'on fait en France avec Utopie et qui se font aux États-Unis et ailleurs depuis longtemps montrent, en particulier en France, un territoire français, en moyenne, donc importe 90% de ce qu'il consomme et exporte c'est un peu plus de 93-94% de ce qu'il produit. C'est-à-dire que l'essentiel de ce qui est produit dans votre collectivité, sur votre territoire, n'est pas consommé localement. Et je veux dire, là, c'est de l'ordre de 9 sur 10, quoi. C'est énorme. Et il faut donc là faire un travail pour identifier les opportunités d'affaires, etc. Mais je vais en parler tout à l'heure. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important de se dire aujourd'hui quel est le pourcentage des achats que je fais moi en tant que ménage, en tant que collectivité ou en tant qu'entreprise. Si je prends tous les achats que je fais, je vois avec mon comptable, quelle est la part des achats qui sont locaux? Et le fait de se poser cette question permet de se dire, mais est-ce que je ne peux pas identifier des entreprises sur le territoire et à l'université, dans le cadre de ma chaire, nous travaillons sur ces questions-là. Voilà, alors ça c'est, disons, pour comprendre le problème. On a compris que la propriété locale est essentielle, que le capital, il doit être sur le territoire si on veut que l'entreprise soit moins tentée d'être délocalisée ou de se délocaliser. L'impact de l'achat local, il est extrêmement important, hein, puisque c'est 3 fois supérieur à l'impact sur mon territoire de quand j'achète ailleurs. Et puis, on peut le maximiser. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et l'impact, je le rappelle, il est aussi sur toute la vie sociale, économique, culturelle du territoire. Alors, on a vu l'objectif substitution à l'import. Alors, il y a des tas d'initiatives. Il y a 3 familles d'initiatives. La première famille d'initiatives, c'est les initiatives que prennent les entreprises elles-mêmes. On a vu tout à l'heure, certaines relocalisent leur activité. Et puis, il y a des groupes ou des entreprises qui décident, quand elles marchent bien, de se développer localement, c'est-à-dire faire une croissance qui intègre des activités dont elles ont besoin eux-mêmes et de manière à ce que l'entreprise devienne peut-être un groupe, mais pas un groupe national ou international, mais privilégie son implantation sur le territoire. Dans mon livre, j'en ai toute une série et en particulier un que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Zingerman's et une petite entreprise de nourriture qui fabriquait donc des sandwichs et des choses comme ça, qui est devenue en 20 ans une famille de 9 entreprises locales intégrées en amont et en aval, qui emploie plus de 500 ouvriers et qui fait 42 millions de chiffres d'affaires dans une petite ville comme Ann Arbor dans le Michigan. Ça, c'est très intéressant parce que ils se sont posé la question, OK, dans ce que nous achetons à l'extérieur, est-ce qu'il y a, ça pourrait pas être une occasion pour certains de nos employés de créer avec nous une autre entreprise intégrée qui soit fournisseur de notre entreprise, etc. Et tout ça dans la même ville. Bon, il y a des tas d'exemples comme ça, mais je vais pas insister parce qu'il y a d'autres choses à dire. Alors ça, c'est des initiatives de l'entreprise. Il y a aussi des initiatives de coopération entre différents acteurs. Alors, une partie, différents acteurs, il y a les coopératives, parce qu'une coopérative, c'est une entreprise, une coopérative locale, et ça peut être un regroupement de coopératives. Et la plus belle coopérative au monde, c'est la coopérative Mondragon au Pays Basque, où on a 73 000 personnes et 268 entreprises coopératives qui sont associées dans le cadre d'un groupement de coopératives. Dans le Pays Basque espagnol, c'est probablement la principale entreprise du territoire, mais aussi à l'extérieur. Alors, le risque qu'on a dans les coopératives, c'est le danger du gigantisme. Bon, à Mondragon, je pense qu'ils y échappent un peu, mais souvent les coopératives, quand on regarde notamment les coopératives en France agricoles, elles n'appartiennent plus à leurs membres, et leurs membres sont un peu prisonniers d'une coopérative qui leur a échappé. Donc c'est un peu le risque, mais on peut, en travaillant ensemble dans le cadre d'une coopérative, se développer. Ensuite, les coopérations entre les entreprises et le client final. Parce que très souvent, une des causes des difficultés des entreprises locales, c'est les intermédiaires. Donc, le rapport de force, quand on regarde dans l'alimentation ou tout ce qui concerne les grandes surfaces ont une telle puissance qu'elles peuvent imposer aussi bien aux consommateurs qu'aux producteurs leurs coûts, leurs choix, etc. Alors, je donne un exemple intéressant que vous pourrez regarder sur Internet. Vous avez probablement entendu parler de la marque du consommateur, c'est qui le patron ? C'est quelque chose qui a été lancé en 2016, si je me souviens bien. Et ce sont des consommateurs qui se réunissent et qui établissent ensemble le cahier des charges d'un produit et qui définissent aussi le prix qu'ils sont prêts à payer. Et ils travaillent avec des structures de production, avec des entreprises pour produire ça en collaboration. Alors ça a un autre avantage, c'est que les coûts de publicité, il n'y en a pas. C'est remplacé par de la communication Internet, de réseaux, etc. Donc, ça réduit les coûts et ça permet à des consommateurs de créer des produits avec les producteurs. Alors, c'est quand même vendu en grande surface, mais comme il y a vraiment un accord entre consommateurs et le producteur, le rapport de force est très différent. Donc, c'est qui le patron ? La marque du consommateur.com, c'est un bon exemple de coopération entre l'entreprise et le client final. Alors, un deuxième.
Avec des conséquences territoriales, puisque c'est effectivement les producteurs territoriaux qui sont privilégiés.
Ils sont privilégiés et ils sont en rapport avec le consommateur qui a décidé que la capacité de survie du producteur est importante et qu'on va pas l'écraser. Au contraire, on va se mettre d'accord pour lui acheter quelque chose qui soit un prix acceptable pour nous et qui lui permette à lui de vivre. Et c'est l'esprit des circuits courts aussi. Donc c'est le deuxième type de coopération entre l'entreprise et le client final. Je vais pas développer les circuits courts, on en parle énormément. Par contre, oui, je souligne un point important. C'est que c'est pas toujours facile, par exemple, pour une collectivité. Alors, il y a un portail qui s'appelle AgriLocal, qui met en relation les producteurs locaux et les acheteurs publics, notamment pour les cantines, etc. Donc, c'est un intermédiaire, mais c'est un intermédiaire qui est au service à la fois des producteurs et du consommateur intermédiaire qui est la collectivité. Donc, le portail AgriLocal, c'est un bon exemple de coopération. Voilà, donc j'ai parlé de coopération entre entreprises. Entre les entreprises et le client final, ou dans le cas d'AgriLocal, un acheteur public. Et puis, il y a les coopérations. Alors, j'aurais pu mettre ce dernier dans la dernière catégorie, c'est coopération avec les collectivités. Et là, j'insiste, puisque CNFPT, c'est quand même les territoires, sur l'importance et l'intérêt des projets de territoire. D'ailleurs, il y a les territoires de projet, donc les PETR, les territoires d'industrie dans un autre domaine, les projets alimentaires territoriaux aussi. Tout ça, c'est dans le cadre des différentes décisions gouvernementales, de lois. Bon, les projets alimentaires territoriaux, c'est issu de la loi d'avenir pour l'agriculture, qui permettent d'organiser la coopération de l'ensemble des acteurs sur un territoire et puis de se donner ensemble une vision d'avenir. Parce que construire ou reconstruire l'économie locale, ça nécessite d'avoir une vision d'avenir parce qu'on n'a pas vu On a cru pendant des décennies que l'économie locale, elle se porterait bien si on vendait beaucoup à l'export et on a mis l'accent sur l'export, etc. Mais c'est faux. L'argent de l'export, il ne revient pas sur les territoires. Il revient dans les entreprises. Et les entreprises, elles ne placent pas forcément l'argent sur leur territoire, sur les territoires. Souvent, elles sont devenues extraterritoriales. Si on n'a pas une vraie politique de territoire, si on n'a pas un vrai projet de territoire, il n'y a aucune chance que l'économie locale se porte bien. Et ces projets de territoire sont faits pour ça, faciliter cette relation entre les producteurs, les intermédiaires, les citoyens, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Alors, j'ai parlé des initiatives entrepreneuriales et des initiatives de coopération. Je voudrais insister sur l'aspect des initiatives publiques pour dire que aujourd'hui, des initiatives publiques, des initiatives européennes, nationales, territoriales, je viens d'en parler notamment. Il faut quand même qu'on sache que aujourd'hui, on est limité par un système politique qui autorise le système économique à imposer sa loi. C'est vraiment la loi de la rentabilité économique maximum pour l'entreprise, et en général pour les grandes entreprises, parce que les petites ont moins de moyens de pression. Et c'est important de savoir parce que l'économie, c'est pas une réalité comme ça qui nous est imposée par la nature, par la vie, par je ne sais quoi. C'est l'économie, c'est une production humaine, elle est contenue, elle est gérée, elle est régulée, ou elle n'est pas contenue, gérée, régulée par nos instances politiques, qu'elles soient internationales, européennes, nationales ou locales. Donc c'est important, et au niveau européen, il y a des petites tendances à aller vers une préférence communautaire, mais il y a beaucoup de résistance parce qu'un certain nombre de pays sont très liés à l'export, comme l'Allemagne par exemple, beaucoup plus que la France, et c'est un échelon dont on ne peut pas se passer. Il faut travailler à l'échelon européen. Au niveau national, on voit la politique industrielle qui a des hauts et des bas depuis des décennies. On peut dire que globalement, la politique industrielle depuis la fin de la guerre, elle a été forte et puis elle a décru. Elle ne s'est pas relevée. Alors il y a des tentatives à chaque fois qu'il y a une crise. On voit des gouvernements qui en parlent. Mais on n'a pas encore vu, depuis l'époque de De Gaulle, on n'a pas encore vu de véritable politique industrielle revenir. Mais les gouvernements ont une capacité d'agir. D'ailleurs, le gouvernement américain, le gouvernement chinois, par exemple, ont une politique industrielle très puissante. Et c'est parce qu'il y a l'État qui pousse ou qui facilite que leurs entreprises sont favorisées en particulier. Donc c'est important de le savoir. Parce que l'économie locale, elle dépend aussi de ça. Et puis, il y a les initiatives publiques territoriales, et là, ça dépend effectivement de la vision de la région, puisque théoriquement, l'économie, c'est d'abord une compétence régionale, mais aussi des collectivités dans les détails. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de la commande publique, etc. Donc, c'est important de le savoir, parce qu'on dit oui, mais c'est pas possible, parce que ça se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs, bien sûr, mais ça se passe aussi sur le territoire. Alors, bien sûr. Je voudrais terminer par un nouvel enjeu. Donc le nouvel enjeu qui apparaît aujourd'hui, qui a explosé la figure de tout le monde avec le Covid, c'est ce qu'on appelle la résilience économique ou plus précisément la résilience productive. On s'est rendu compte tout d'un coup qu'il n'y avait plus de producteurs français ou même européens de gel hydroalcoolique, de masques et de bien d'autres choses, des médicaments, etc. On s'est rendu compte que tous nos médicaments sont fabriqués en Chine, etc. Bon, et ça, c'est pas nouveau, mais on ne le disait pas, c'était pas dans les médias, etc. Voilà. Donc on a réalisé, le gouvernement a réalisé, le président de la République et un peu tout le monde, qu'il y a un problème. Alors, la résilience, ça veut dire quoi ? On en parle beaucoup, mais en fait, en général, la résilience, c'est la capacité d'un organisme vivant, que ce soit un animal, une plante, un humain, une société, une ville, etc., une région, un pays, c'est sa capacité à retrouver les structures et les fonctions de l'état dans lequel il était avant une crise, avant un événement, une perturbation, de les retrouver après. Pas forcément de la même manière, mais de ne pas mourir d'une crise, mais de renaître après une crise. Et les crises, on en a connu, et c'est pas fini, on va en avoir de plus en plus. Donc on devient conscient aujourd'hui que la capacité de notre société, mais aussi de nos organisations de production, des entreprises, c'est très important de se poser la question, est-ce qu'on est capable de résister à une crise ?
Alors comment on peut faire pour devenir plus résilient à l'échelle territoriale ?
Alors, l'élément clé, là c'est vraiment l'élément fondamental, toutes nos études le montrent, c'est la diversité productive. La diversité du tissu économique d'une collectivité, d'un département, d'une région, c'est la clé. On a mesuré tous les autres critères, mais le seul qui soit vraiment prévalent, c'est la diversité. Donc si j'ai un conseil à donner à des décideurs territoriaux, c'est surveiller, protéger, prenez soin de la diversité de votre tissu productif dans tous les secteurs que vous avez. Évitez que disparaissent des filières, même des entreprises dont vous ne trouvez plus l'équivalent après sur votre territoire pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où une entreprise aura besoin d'un fournisseur, si ce type d'activité a disparu, automatiquement on va aller chercher ailleurs. Alors ça ne veut pas dire que si elle est présente sur le territoire, les entreprises vont avoir le réflexe d'acheter local parce que parfois elles ne le savent pas, etc. Mais il faut absolument protéger, accompagner le renforcement de la diversité de l'activité économique du territoire. C'est la clé. Tout à l'heure, je parlais de la propriété de l'entreprise. C'est une clé fondamentale et celle-ci, c'est vraiment une clé. Conserver la résilience d'un territoire, c'est préserver et renforcer la diversité. Donc, diversifier les activités, c'est un véritable investissement d'avenir pour n'importe quel territoire. Et voilà. Alors, les études qui sont faites, notamment par Utopie, montrent que pour qu'un système économique territorial soit résilient, que ce soit une nation ou une région, il faudrait qu'il soit capable de maintenir la production d'une part significative de ses biens, hein, et probablement au-dessus des deux tiers. C'est-à-dire qu'il soit capable, il ait toute la diversité d'entreprises qui lui permettent de répondre à deux tiers de ses besoins. Quelle est la situation aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans le monde, aucun pays ne dépasse 50%. Et la Chine est le premier ex aequo avec l'Italie, hein, avec 49,3%, presque 50%. Mais on est encore loin des deux tiers. Alors, pourquoi la Chine et l'Italie ? L'Italie, c'est un pays qui s'est constitué tard en tant que pays. C'est, moi, j'y ai travaillé pendant quelques années. C'est un pays qui est un ensemble de pays quelque part. C'est un ensemble de territoires économiques très autonomes et très résilients dans l'agriculture, dans l'industrie, etc. Beaucoup plus que la France et plus encore que l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays qui s'est complètement ou au maximum orienté vers l'export. Et donc, quand l'économie mondiale vacille, un pays comme l'Allemagne qui est puissant en prend plein la figure. Il faut savoir que la moitié des pays en sont aujourd'hui à moins de 15% de résilience, c'est-à-dire qu'ils sont absolument dépendants totalement de l'extérieur. Et sur les produits de santé ou médicaux, c'est 75% des pays qui sont en dessous de ce minimum vital de 10% de résilience productive. C'est un énorme problème à l'échelle de la planète. Alors la France là-dedans. La France, elle est quatrième. Elle est quatrième avec 44 et des poussières. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est en moins bon état relativement que l'Italie et beaucoup mieux que l'Allemagne et d'autres ? C'est la diversité de son système de production. Je répète, c'est la clé, la diversité du système de production. Et ceci dit, on a quand même de grandes disparités en France. Certains secteurs sont très fragiles et ils fragilisent la résilience productive du pays. Et d'autres sont plus solides. Et on voit que dans les secteurs comme l'industrie agroalimentaire, le chimique, la plasturgie médicale, on est plutôt en haut. Et par contre, de nombreux secteurs agricoles et industriels, on est à la 30e place. Donc, c'est un pays qui se porte bien par rapport à l'ensemble, quand l'ensemble ne se porte pas très bien, mais c'est pas équilibré. Puis quand on compare les régions françaises, sur 100, on a presque 22 points d'écart entre le champion qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 36,4% et le moins élevé, la Corse, avec 14%. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région qui est très composite géographiquement, économiquement. On a des aspects très agricoles, des aspects très industriels. Donc c'est une région qui est relativement équilibrée, c'est la plus équilibrée en France en tout cas. Voilà, donc la résilience économique d'un pays, c'est fondamental, d'une région aussi, et cette résilience, elle est basée sur la diversité du tissu économique. Ça c'est vraiment important. Alors, pour faciliter ce travail, ça c'est ce que nous faisons avec Utopie et avec ma chaire à l'Université Bretagne Sud, c'est de faire des analyses stratégiques territoriales, c'est ce que fait Utopie, et nous, on travaille sur le rapport entre, disons, l'intégration de multiples données grâce à l'intelligence artificielle pour mieux comprendre et mieux documenter ce phénomène.
Donc il y a une nécessité, de veille sur la diversité, sur les importations. Il faut connaître son métabolisme territorial, voilà. Faut dire. Et puis, il ne suffit pas d'avoir de la diversité. Il faut aussi que les entreprises soient bien capitalisées et capitalisées localement. Là, on sait qu'on a des moyens. On a des moyens avec. On a vu dans une émission précédente sur la mobilisation de l'épargne locale. On a des moyens financiers et des moyens d'orienter cette finance vers les entreprises locales. Et puis on peut agir sur l'achat, on peut agir sur les circuits courts, etc. Il y a toute une animation du marché local de l'argent, des achats, des échanges, etc., qui doit être réalisée, sauf à mettre en danger finalement l'économie, le social et même l'environnement, parce que je me suis laissé dire que les entreprises locales étaient souvent plus vertueuses aussi sur ce plan.
Absolument. Alors ça, c'est une autre raison, et vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Les entreprises locales sont globalement plus vertueuses sur le plan environnemental, et pour une raison très simple, c'est que si vous avez une filiale, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a bien longtemps, le grand scandale en Inde de Bhopal, où une industrie chimique a explosé. Et on a encore aujourd'hui les conséquences et des enfants qui naissent difformes, etc. à Bhopal. L'entreprise américaine s'est délestée de sa filiale. Personne n'a pu être attaqué, être considéré comme responsable. Et en général, dans le monde, à l'époque, on en a entendu parler très tard et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Aujourd'hui, si vous êtes dans une région et que tout d'un coup, il y a un accident industriel, vous pouvez aller frapper à la porte de l'industriel, que vous soyez préfet, collectivité ou autre, ou les citoyens, et dire « bon, c'est inacceptable », etc. C'est-à-dire, il y a un contrôle social qui est évident, il n'est pas tout puissant, mais il est évident quand vous êtes localement installé, que vous n'avez pas, si le propriétaire de votre usine, il est de l'autre côté de la planète. Ça, c'est le premier point.
Bien sûr.
Mais il y a le contrôle social, c'est l'aspect un peu force, mais il y a aussi l'intérêt de l'industriel. Le propriétaire qui habite là, qui a sa famille qui est là, qui fait partie aussi de la société locale, si sa société génère des conséquences négatives pour l'environnement, il n'a pas forcément envie, hein, parce que lui, son écosystème, c'est au-delà de ses clients et ses fournisseurs, c'est l'ensemble des acteurs, des gens qui vivent autour de lui. Et donc, on le voit très, très nettement partout. Si le siège et les dirigeants de l'entreprise habitent dans la région, le comportement de l'entreprise est généralement extrêmement différent.
Alors, il y a évidemment des grandes entreprises qui sont
très, très vertueuses, hein, et parce qu'elles savent, et ça c'est aussi un élément, les grandes entreprises, elles savent, elles sont capables de voir loin parce qu'elles ont les moyens, elles ont le personnel, etc., que si aujourd'hui une entreprise n'a pas une vision environnementale profondément ancrée, demain elle aura de gros problèmes de toute façon. Mais en général, les entreprises, bon, elles n'ont pas toutes ce raisonnement-là, mais elles vont être amenées à l'avoir, et on sait que localement, comme vous le disiez tout à l'heure, une entreprise locale, elle fait partie de son écosystème local, donc elle le respecte plus en général.
Voilà, donc il y a des forces de rappel qui permettent d'améliorer la vertu spontanée des entreprises. Et ces forces, elles existent d'autant plus que l'entreprise a effectivement une vraie personnalité, un vrai ancrage territorial. Donc on voit bien toutes ces logiques. Alors, on précise évidemment qu'elles sont développées dans votre ouvrage Made in Local, dans les textes aussi de Michael Schumann. Donc, les données scientifiques existent, on vous y renverra. Est-ce que vous voulez un mot de conclusion, Raphaël?
Oui. Alors, ma conclusion, c'est la solution, c'est la localisation et pas simplement la relocalisation de l'économie. La localisation, c'est décider que l'économie d'un territoire, c'est une véritable politique, c'est un enjeu fondamental, et vouloir localiser, c'est-à-dire renforcer l'économie du territoire, c'est une question de volonté avant tout. Il est important que nous décidions, que nous soyons conscients que l'économie doit être au service de la société et de l'environnement et non l'inverse. Hein, pendant longtemps, on a cru qu'il fallait tous se mettre au service de l'économie et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'impacts négatifs parce qu'on a laissé l'économie se développer toute seule. Il faut reprendre le contrôle de ça et dire une économie qui détruit la société, les emplois et l'environnement, c'est une économie qui n'est pas viable et les collectivités ont un rôle essentiel à jouer là-dedans. C'est vraiment quelque chose, on ne doit plus être otage de la toute-puissance du marché qui est peu ou mal régulé parce qu'on l'a laissé faire, pas parce que c'est sa nature. Voilà.
Très bien.
Et je crois que c'est vrai au niveau local aussi.
Très bien. Merci beaucoup. Et on va mettre toute une série de liens et d'informations complémentaires sur le site de Fréquence T. À très bientôt pour une prochaine émission.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.